franceinter.fr.
Il a la main verte, Alain Baraton, et il est avec nous, comme tous les week-ends.
Bonjour Hélène.
Bonjour Alain. Où est-ce que vous nous emmenez ce matin?
Eh bien, moi, je vous propose une très jolie promenade du côté de Simiane-la-Rotonde, et c'est dans le département des Alpes de Haute-Provence. À 600 mètres d'altitude, il a été construit l'abbaye de Val-Sainte, une abbaye cistercienne, pardonnez-moi, superbe. Alors, si les moines qui y ont vécu jusqu'à la Révolution ont quitté les lieux, il est toujours possible, bien sûr, de visiter l'édifice et le jardin classé remarquable par le ministère de la Culture.
D'autant plus que des manifestations sont prévues tout l'été.
Comme par exemple en semaine, du lundi au vendredi à 16h. Profitez par exemple de la visite guidée du jardin et de l'église. C'est une visite qui s'achève à 17h30. Et bien le guide va en plus, à la fin, interpréter des gens grégoriens. Et quand on sait que le guide s'appelle Jean-Louis Moine, avouez que s'appeler ainsi dans un tel lieu, c'est quand même assez extraordinaire. Les manuels, je ne parle pas des prénoms, je parle de ceux qui savent travailler avec leurs doigts, apprécieront aussi tous les lundis et mercredis à 11h les démonstrations de construction de murets en pierre sèche, pratique si l'on possède une maison dans la région.
Alors il est aussi possible de rencontrer le jardinier.
Alors déjà en semaine et tous les vendredis à 11h. Mais attention à l'abbaye de Val-Sainte, jardinier s'écrit avec un J majuscule. Jean-Yves Maignan est à la manœuvre et il connaît son métier. Les auditeurs de France Bleu Vaucluse le connaissent bien car il officie sur les ondes depuis près de 15 ans. Il est horticulteur formateur et c'est à l'abbaye de Val-Sainte qu'il exerce son métier. Et quand je dis qu'il l'exerce, il l'exerce d'ailleurs sacrément bien. C'est à lui que l'on doit ce jardin qui n'était encore en 1996 qu'une simple friche. C'est lui qui a voulu présenter des plantes appréciées en homéopathie ou aromathérapie. C'est encore lui qui a voulu un jardin sec pour mieux présenter une collection de 350 espèces et variétés de végétaux qui n'ont pas besoin d'eau ou presque. Choix judicieux quand on sait qu'il n'a pas plu dans la région depuis le 15 mai.
Jean-Yves Maignan aime très certainement les tomates.
C'est certain, il en a planté 30 variétés. Ah moi, j'adore les tomates. Je vous assure que quand on a goûté aux tomates du jardin,
Faut qu'elles soient bonnes aussi.
Oui, on n'a plus du tout envie d'en acheter en provenance de certains pays frontaliers. Les tomates qui sont produites hors sol et qui ont un goût de lessive. Les tomates du jardin, c'est merveilleux. Et celles de ce jardin le sont, bien évidemment, parce que Val-Sainte, c'est un petit potager extraordinaire que l'on pourra qualifier d'agro-écologique. Val-Sainte, c'est aussi un verger, une livrée et une collection de lavande. Vous imaginez, vous allez arriver à Val-Sainte, vous fermez les yeux et vous avez les senteurs de lavande qui vous rappellent que vous êtes dans le sud. Alors pour visiter le lieu et pour permettre à Jean-Yves d'entretenir le site, il vous en coûtera à l'entrée 7 euros seulement si vous êtes un adulte.
Très belle balade dans le sud
très
de la
joli,
France.
Très bel endroit, tout à
Merci
fait.
Merci beaucoup Alain, dans quelques minutes.
Juste un petit conseil qui m'amuse beaucoup, si vous avez un jardin à Villedieu et les Poëls ce matin, et si en regardant vous avez l'impression de voir un lion,
cette histoire, vous l'appréciez.
Oui,
hein.
Rentrez chez vous, c'est peut-être vraiment un lion.
À la recherche du lion ou du lynx, hein. On ne sait pas vraiment ce que c'est encore, mais gardez l'œil bien ouvert. Dans 2 minutes, les questions des auditeurs avec vous, Alain Baraton. Ce sera juste après le réverbère de Laura Cahen.
Pied dans le réverbère, un homme assis au soleil couchant. Ce jour essuyer la poussière de ce réverbère maudit. Le voilà qui s'endort au son des claquetis. Aussi loin aujourd'hui, aussi loin, telle une boue.
Laura Cahen, qui sera en première partie de Camille le 13 octobre prochain à Nancy, et puis à la Cité de la Musique à Paris en avril prochain. On n'attendra pas si longtemps pour répondre aux questions des auditeurs, oui, à Barathon, parce qu'on s'y met tout de suite.
Eh bien, je vous écoute.
J'en ai une première qui nous vient, oui, de Caroline, qui se demande, enfin qui nous dit que ses rosiers ont des taches noires sur ses feuilles. Elle se demande si c'est grave.
Alors c'est ce que l'on appelle une maladie dite cryptogamique. Une maladie cryptogamique, cela signifie que c'est une maladie de champignons. Et il s'agit très certainement d'une maladie que l'on appelle le Marsonia, M-A-R-S-O-N-I-A.
Très bien.
Cette maladie cryptogamique produit effectivement des taches noires. Ensuite, les feuilles jaunissent et tombent. Ce n'est pas dramatique pour le végétal, sauf que cela l'épuise. Et un rosier épuisé ne fleurit pas, ce qui est quand même navrant quand on a planté cet arbuste pour justement colorer le jardin. Alors que faire? Déjà, on évacue systématiquement toutes les feuilles tombées sur le sol et on n'oubliera pas d'aérer le végétal. Il ne faut pas que l'on plante trop près et il faut que le soleil puisse vraiment baigner l'ensemble de la ramure. Il ne faut pas non plus hésiter à ne pas arroser...
Eh, c'est notre air dans le studio. Ah, réussit pas, Alain.
Je le sais.
À
moins que j'ai peut-être une toux fragile, je suis peut-être quelqu'un d'assez délicat. Mais je crois que le chat est parti, j'en suis très heureux. Donc, disais-je, ce qu'il faut, c'est ramasser les feuilles qui sont atteintes. Ne pas hésiter à couper celles qui sont restées sur le végétal. Et attention à ne pas arroser les feuilles du rosier quand il y a besoin de leur donner de l'eau. Voilà donc le Marsonia. Sachez que le Marsonia se développe prioritairement au printemps, lorsque les journées sont chaudes et que les nuits sont fraîches. Sachez enfin qu'il existe des variétés moins sujettes aux autres. Demandez donc conseil à votre pépiniériste.
Vous nous parlez de maladies cryptogamiques. Ben, on va rester, oui, dans le même thème avec la question d'Yves. Les actinidias sont-ils sensibles à ces maladies cryptogamiques et doit-on les tailler, s'interroge-t-il.
Testons à l'instant votre compétence horticole.
Ah, ça va être
connaissez-vous vite vu. L'autre nom de cette plante, actinidia?
Oui, les actinidias...
Oui, vous avez raison, ce sont bien les kiwis. Eh bien,
ah oui, voilà, c'est ça, on en a parlé la semaine dernière.
Voilà. Donc les kiwis, qui, à ma connaissance, sont extrêmement résistants à tout ce qui est cryptogamique, y compris les insectes. Pour faire simple, je ne connais pas de problème lié à la présence des actinidias. J'ai le sentiment que ces végétaux résistent à tout ou presque. Et quand on me demande, faut-il en plus les tailler pour qu'il y ait une belle fructification, je réponds pas sûr. J'ai la chance, là où je travaille, d'avoir des murs entiers tapissés d'actinidias, donc de kiwis. L'occasion de rappeler que le kiwi se plaît donc même au nord
partout,
de la Loire,
voilà.
Il n'y a aucun souci. Et j'ai eu des collègues qui, dans le passé, se sont dit, il faut les tailler. On a vu le résultat. Et je peux vous assurer que quand un kiwi...
C'est-à-dire, on a vu le résultat.
Bah, il n'y a pratiquement pas eu de
fruits.
Donc quand on voit parfois des kiwis qui n'ont pas rencontré un seul jardinier pendant 20 ans, qui ne connaissent pas le contact de la lame du sécateur et qui, j'allais dire, dégueulent de fruits, on est en droit de se demander si effectivement la taille est bénéfique à cet arbuste sarmenteux. Donc, pas de problème de traitement, pas de problème de maladie cryptogamique, pas de problème d'insectes, pas de problème de taille, c'est le rêve.
Tous les ans, c'est pareil pour Pierrette. Mais ces noisettes, sont boulottées de l'intérieur. Que faire?
Ne pas confondre le baladin, qui est un petit peu le garçon romantique, et le balanin, avec un N, qui est un petit insecte qui vient s'amuser à pondre sa larve dans la noisette. Effectivement, il y a un petit trou, parce qu'une bestiole est venue forer la coquille, pondre la larve à l'intérieur, qui s'est nourrie de la noisette, et qui après a disparu. Mais au fait, elle a disparu. Qu'est-elle donc devenue? Elle est dans la terre. Elle est au pied même du noisetier. Vous levez les yeux vers le ciel, désespéré, vous ne mangerez pas de noisette, mais la bestiole, elle rigole. On les entend rigoler, elles sont sous terre là, sous vos pieds. Alors que faut-il faire? 1. On évacue systématiquement à l'automne toutes les noisettes vides tombées au sol. 2. On évacue les feuilles mortes également. 3. Et c'est le petit truc, en hiver, on donne un petit coup de griffe rapide sur la surface du sol pour mettre en contact éventuellement les bestioles qui vivent sous terre avec le bec des oiseaux qui s'en délecteront, voire avec le froid qui devrait les tuer. Et en faisant ainsi, on devrait non pas détruire totalement, mais limiter les dégâts causés par les balanins.
Loulou, un drôle de prénom,
Loulou.
Mais une très bonne question. Oui. Suis-je vraiment dans l'obligation de déclarer la ruche que je possède?
La réponse est sans appel, elle est oui. Depuis le 1er janvier 2010, il y a obligation de déclarer auprès des services préfectoraux vétérinaires toute ruche, même si on n'en a qu'une. Cela fait partie des lois suite au Grenelle de l'environnement. Il faut donc les déclarer.
Pour quelle raison?
Bah pour quand, déjà pour savoir exactement suivre l'évolution de la population des abeilles en France. C'est important, on a observé tout un déclin. Alors, peut-être est-il aussi une raison financière, une raison de déclaration, mais avant tout, c'est une raison qui est positive, voir la population des abeilles, voir si elles souffrent ou non, voir leur déclin, et éventuellement faire en sorte, eh bien, de pallier à tous ces problèmes qui seraient graves pour l'environnement.
Il peut éventuellement y avoir des contrôles.
Ah, il peut y avoir des contrôles, mais de toute façon, il y a toujours intérêt, surtout avec des objets qui peuvent devenir dangereux. La ruche n'est pas dangereuse, mais admettons qu'un gamin tombe dessus et soit piqué par une bestiole, il vaut mieux avoir fait les choses réglementairement. J'aime bien être hors la loi de temps en temps, mais il faut savoir parfois la respecter.
Vous êtes venu avec un peu de lecture, Alain Baraton.
Et oui, je pensais à vous, vous allez partir en vacances bientôt, du moins je l'espère. Reconnaître pas à pas 700 plantes communes. Vous vous promenez, bah, par exemple, du côté de l'abbaye de Val-Sainte, en Normandie, là où il y a les lions, et où partout ailleurs, eh bien vous avez un bouquin qui vous permet d'identifier les plantes et de savoir ce que l'on en fait. Il est signé de Peter M. Kammer, publié chez Delachaux et Niesley.
Eh bien, merci beaucoup Alain Baraton. Vous qui aimez la nature, est-ce que vous mangez des insectes?
Bien sûr.
Ah bah ça, c'est une très bonne chose.